Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5. L'invité de la matinale.
Matinale européenne, résolument européenne sur Bretagne 5, puisque Bretagne 5 s'est déplacée au Parlement européen, et on doit d'ailleurs ce déplacement à Marie-Pierre Vedren, qui est députée européenne et qui nous a invités aujourd'hui au Parlement européen à Bruxelles. Alors on n'a pas fait tout le tour de tous les petits recoins parce que c'est très grand, mais on a trouvé un studio qui était fort agréable et qui accueille la matinale. Marie-Pierre Vedren, merci de cette visite et merci d'être avec nous ce matin au micro.
Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à cette invitation et d'être là pour démontrer que ça marche aussi dans les deux sens. C'est l'Europe qui est en Bretagne et c'est la Bretagne qui est aussi présente en Europe.
Voilà, alors le studio est plus grand ici que celui de la matinale de Bretagne 5, donc on a beaucoup de monde autour du micro. Je vais commencer par Karine Berthelot, bonjour.
Bonjour.
Karine, vous êtes maman de deux adolescents de 19 et 21 ans et vous étiez ici en visite aussi au Parlement européen. On va recueillir vos premières impressions dans un instant. Le temps de présenter Clarisse Lecourt, qui est fondatrice et CEO, je le dis peut-être pas très bien en anglais, du laboratoire Clarifarm à Saint-Alban dans les Côtes d'Armor. Vous voyez, les Côtes d'Armor sont aussi ici à Bruxelles et vous étiez en visite. Et puis, on va parler un petit peu plus largement de l'aspect de votre visite ici. Bonjour Clarisse.
Bonjour, merci beaucoup.
Mathieu Cabaret, parce qu'il y a aussi un homme, voilà, j'étais entouré de beaucoup de femmes, il y a aussi un homme, voilà, rassuré, quoique tout se passe très bien, je vous rassure, amis auditeurs. Mathieu Cabaret, qui est étudiant en deuxième année de droit à Rennes et qui est également ici en visite. Bonjour,
bonjour
Mathieu.
Bonjour à vous, merci à vous.
Voilà, on va recueillir aussi vos impressions parce que tout ceci se greffe effectivement sur une visite organisée par Madame la députée, par Marie-Pierre Vedren, visite qui a amené ici à Bruxelles 40 jeunes. De tous horizons.
Exactement. L'objectif depuis le début de mon mandat, c'est de participer et faire vivre la démocratie européenne. Démontrer que cet honneur que j'ai d'être députée européenne, c'est quelque chose qui se vit avec notamment tous les Bretonnes et les Bretons, même tous les Français et les Européens. Mais c'est important pour moi de faire comprendre quelle est mon action, quel est mon rôle et quel est mon impact dans la vie des Bretonnes et des Bretons. Et je pense que pour que les gens puissent le toucher du doigt, voir aussi ce qu'est la réalité d'un député européen, c'est important de venir au Parlement européen, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, pour comprendre, pour voir, pour sentir justement aussi comment les choses se passent. Donc l'objectif, c'était d'avoir plein de jeunes, des jeunes avec des parcours différents, que ça soit effectivement des étudiants en droit, mais que ça soit des jeunes issus de maisons familiales rurales, que ça soit des jeunes en bac pro sécurité, en pâtisserie ou aussi en école de commerce, faire en sorte que des gens qui ne devraient pas se croiser se croisent. Et ça, je crois que c'est aussi un rôle d'un responsable politique.
Avec un dénominateur commun, l'Europe évidemment, et l'Union européenne, puisqu'on est ici à Bruxelles. Alors on ne va pas tout détailler parce qu'il nous faudrait plus de temps que le temps qui nous est imparti dans la matinale, mais j'ai envie finalement de me tourner vers Mathieu. Les premières impressions?
C'est vrai que quand on arrive au Parlement, on voit la grandeur du bâtiment, c'est vraiment impressionnant. Et franchement, on est arrivé hier en fait à Bruxelles. Et cette visite, c'est vraiment incroyable. Enfin, il y a tellement de choses à voir. Je pense on n'a pas encore fini de faire tout le tour en fait du bâtiment. Et c'est vraiment une visite hyper intéressante et qui permet en fait à nous jeunes, dans le cadre de cette visite, de découvrir le quotidien par exemple d'un député. Et aussi également d'en apprendre plus sur l'Union européenne, parce que je pense qu'en tant que citoyen, c'est bien aussi de s'intéresser et de développer cette culture de l'Union européenne.
Alors, la jeune génération, la vôtre, Mathieu, oui, est très européenne. Quand vous voyez un petit peu ce qui se passe à nos portes, on va parler de la guerre en Ukraine tout à l'heure avec Marie-Pierre Vedren, mais est-ce que, quelque part, vous vous dites, il est temps que l'Europe soit encore plus rapide sur certaines décisions? Est-ce que vous avez envie que ça aille plus vite, finalement, et que l'Europe soit plus forte?
C'est vrai que, en fait, cette alliance, je pense, européenne, c'est vraiment renforcé depuis cette guerre en Ukraine et vraiment à participer à trouver les meilleures solutions, les meilleurs compromis pour du coup résoudre cette terrible guerre depuis maintenant presque un an. Et je pense qu'elle a énormément de rôle à jouer dans cette guerre.
Alors je vais me tourner justement vers Marie-Pierre Vedren. Le rôle du Parlement européen, de l'Europe, on va prendre le terme générique, dans cette guerre, alors même si on a appris que l'Allemagne allait donc finalement, avait donc levé son veto de livraison de chars à l'Ukraine, est-ce que ça n'arrive pas un peu tardivement? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus vite?
Je crois que depuis le début, quand même, l'Union européenne, elle a toujours dit qu'elle était du côté de l'Ukraine. Il y a des points où souvent on peut être divisé, mais là, clairement, il y a une vraie unité européenne pour dire que nous sommes du côté des Ukrainiennes et des Ukrainiens qui ne se battent pas seulement pour la souveraineté de leur État, pas seulement pour leur liberté, pas seulement pour leur paix. C'est véritablement un engagement aussi au service de l'Union européenne et des valeurs que nous portons. Donc ça, tout le monde, les États membres, mais aussi bien évidemment notre institution, le Parlement européen, a toujours dit cela. Maintenant, effectivement, on a très vite été présent pour l'accueil des réfugiés, le soutien économique. Et il est vrai que sur la question du soutien militaire, parce que nous sommes aussi, si je rentre un peu dans la technique, sur des compétences aussi beaucoup plus propres aux États, parce qu'il est question véritablement là, de défense, de souveraineté nationale, d'envoi d'armes, de certains types d'armes.
Il y a un orgueil national hein, de certains États.
C'est pas tant la question de l'orgueil national, c'est aussi les conséquences que ça engendre pour les États d'envoyer tel ou tel type d'armes. Mmh. Comment nous sommes considérés ou non, c'est certain d'ailleurs, c'est les arguments de Vladimir Poutine qui diront que nous devenons des co-belligérants à cette guerre. Donc c'est tous ces enjeux aussi, puis les conséquences que ça a. Mais il est très clair, et en tout cas pour notre institution, le Parlement européen, qu'il nous faut soutenir plus largement l'Ukraine, parce que je le répète, il faut toujours partir du point de départ. Le point de départ, c'est l'agression par la Russie de Vladimir Poutine de l'Ukraine. Mmh. Et nous devons, et nous sommes du bon côté de l'histoire, en étant au soutien des Ukrainiens.
Ça ramène un petit peu au démarrage de ce qu'on n'appelait pas encore l'Union européenne, mais la naissance de cette Union européenne embryonnaire, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec cette volonté de ne plus avoir de conflits, s'il y a des conflits, d'essayer en tout cas de les arrêter le plus vite possible.
Exactement, c'est vrai que ça nous ramène sur le sens. Et c'est les échanges qu'on avait notamment avec les jeunes hier, tout au long de cette visite. Ça rappelle les fondamentaux. Ça rappelle que si on n'a pas la paix, si on n'inscrit pas la sécurité, on ne peut pas avancer sur les autres sujets. Et on a tendance à penser, en tant que Français, que nous vivons en paix, c'est un acquis. Non, on le voit bien, que ça soit en Ukraine, mais que ça soit aussi dans d'autres zones et dans d'autres continents. La paix n'est pas garantie. Et il nous faut continuer, justement, de nous battre pour garantir cette paix, de nous engager. Parce que derrière, c'est ce qui nous permet aussi, quand nous avons la paix, quand nous avons la stabilité, de créer de la prospérité et de répondre à tous les autres enjeux qui se posent, que ce soit la question du changement climatique, que ce soit la question de l'égalité, que ce soit la question de la place des femmes aussi.
On va en parler de la place des femmes. Justement, vous me donnez une transition, Marie-Pierre Vedren, avec deux femmes, hein, je l'ai dit. Je vais commencer par une maman, Karine Berthelot. Je le disais en commençant, vous êtes maman de deux adolescents, 19 et 21 ans. Vous étiez en visite ici au Parlement européen, à Bruxelles. Tout d'abord, je vais faire comme... La question est très simple, comme avec Mathieu. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Voilà.
Une opportunité, en fait, d'accompagner les enfants et ces adolescents, en fait, à découvrir l'institution européenne. Et c'est vrai que ça nous paraissait, nous, de notre Bretagne, complètement inabordable. Et grâce à Marie-Pierre Vedren, effectivement, nous avons eu accès à l'ouverture du Parlement.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? La grandeur, la rapidité? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui courent dans les couloirs. Marie-Pierre Vedren, d'ailleurs, est devenue championne de course. Hein. Je peux vous dire, on l'a suivi tout à l'heure dans les couloirs. Il faut suivre. Donc voilà, c'est ça qui vous a impressionné?
Oui, je vous rejoins. C'est un petit peu le marathon. En fait, c'est immense. En fait, voilà, c'est l'ébullition. En fait, on sent des personnes très investies. En fait.
On parle de marathon, mais il y a aussi des marathons parfois sur les dossiers. On se couche très tard ou on se lève très tard, très tôt, ça dépend du sens de la nuit.
Voilà, exactement. Il y a des fois, on dort peu parce qu'on est dans des phases de négociation et surtout quand on arrive à la fin des négociations, parce qu'il y a des sujets extrêmement importants qu'il nous faut traiter. Bien évidemment, on a parlé de l'Ukraine, mais on a la question, je parlais de l'urgence climatique, donc il y a plein de... Parce que ça a été notre cap quand on est arrivé ici au Parlement européen en 2019, mais c'est toujours notre boussole, parce qu'on sait bien que c'est un enjeu extrêmement important, qui a des conséquences aussi sur la santé publique. Tout est lié aussi, tout est interconnecté. Et puis on le voit bien, on est dans un monde de plus en plus instable. J'ai eu beaucoup d'interrogations, d'interpellations de la part des jeunes qui étaient présents sur justement, et c'est la question sur l'Union européenne qui prend sa place, comment elle défend mieux ses intérêts face aux États-Unis, face à la Chine, face à un monde qui change tellement rapidement. Donc on voit que oui, il nous faut continuer d'aller de l'avant, ne jamais s'arrêter, parce que si nous on est en phase de statu quo, en fait les autres avancent. Et donc de fait on recule.
On va parler d'économie. Alors, on reviendra sur la Chine tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup à dire. Surtout encore, ça va encore nous ramener à la guerre en Ukraine. Hein. Pardonnez-moi, mais l'actualité est là. Je vais me tourner vers Clarisse Lecourt, qui est fondatrice et CEO du laboratoire Clarifarm à Saint-Alban, dans les Côtes-d'Armor. Ça fait drôle de dire Saint-Alban dans les Côtes-d'Armor, ici, à Bruxelles. La Bretagne est partout, il faut bien le dire. Vous étiez également en visite ici au Parlement. Alors, même question, hein. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné?
Hormis le côté grandiose, c'est la base, c'est les lois, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous fait avancer sur tous les sujets. Hein. La santé, c'est mon univers, mais il y a l'économie aussi, ça fait partie du jeu. Mais c'est là que ça se passe, quoi. Et nos représentants, comme Marie-Pierre Verdrenne, députée européenne, la régionale de l'étape, on a une chance incroyable, déjà, d'avoir accès à cette personne. Marie-Pierre nous permet, nous ouvre les portes au Parlement. Ça, c'est un avantage qui n'a pas de prix. Et en tant que Breton, il faut qu'on saisisse l'occasion. Il faut aussi aller peut-être un peu plus sur la connaissance du Parlement. Et du coup, on va faire le relais. Marie-Pierre nous permet l'ouverture au Parlement, enfin de pouvoir entrer dans cette institution qui est incroyable. Et on va pouvoir ramener ce qu'on a perçu, ce qu'on a compris sur le fonctionnement des institutions, tous ces engagements, le peu d'heures de sommeil. Et tout ça, en fait, ça fait du bien pour le karma. Parce que quand je vois l'engagement de Marie-Pierre Verdrenne au niveau de l'Europe, pour nous... Hein, c'est-à-dire les Français, les Européens, mais aussi les femmes, entre autres, et le commerce.
On va en parler des femmes, justement, c'est important.
Et là, je me dis chapeau, quoi. Heureusement qu'on est entouré de personnes aussi incroyables. Voilà. C'est le premier truc grandiose que je retiens, c'est ça, c'est l'engagement de Marie-Pierre.
Autre l'engagement, il y a aussi le fait que vous soyez venu ici aussi pour porter des messages. Mmh. Parce que c'est aussi le rôle des citoyens européens de porter des messages à leurs députés, qui en reçoivent beaucoup, je crois. Mmh. Et vous, vous êtes sur un message qui parle aux femmes, puisqu'on parle de réglementation en termes d'hygiène féminine. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Parce que c'est important.
Alors, pour vulgariser un peu l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre les exigences européennes et le reste du monde. Les protections d'hygiène féminine ne sont pas réglementées comme des dispositifs médicaux. Il suffirait d'un petit mot dans une annexe, le mot c'est vagin, pour que les protections d'hygiène féminine deviennent des dispositifs médicaux et qu'avant avant de mettre un produit sur le marché, on réponde à des exigences basiques, mais qui sont essentielles, de mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue, pour la sécurité des femmes. Voilà, on parle de produits insérés, voilà, proches des muqueuses, donc porte d'entrée dans le sang. Et Marie-Pierre a été réceptive à cette démarche. C'est une femme, ok, mais c'est notre députée, notre représentante. Et grâce à elle, voilà, j'ai pu rencontrer des personnes importantes à la Maison de la Bretagne à l'Europe, qui nous aident aussi à structurer notre démarche. Et grâce à Marie-Pierre, je peux rencontrer d'autres députés qui vont être sensibles à cet engagement.
Voilà. Ça ouvre un réseau de relations et d'influence, on peut le dire comme ça, Marie-Pierre Verdrenne ?
Oui, complètement. Et puis on le voit bien. Le rôle d'un parlementaire, c'est de bâtir des politiques publiques. Politique publique, c'est pas quelque chose qui est déconnecté. C'est effectivement comment on encadre nos vies, comment on crée de la réglementation qui est perçue parfois, effectivement, ces fameuses normes européennes. Mais là, on le voit bien avec l'exemple de la société de Clarisse Lecourt, Clarifarm, c'est que c'est un vrai enjeu de santé publique, un enjeu d'égalité. C'est capital de faire comprendre aussi tout ça, d'évoluer, parce que derrière, si on ne réglemente pas sur le sujet, quoi, ça serait catastrophique. Et c'est déjà, pour certaines femmes, catastrophique. Donc c'est vital de faire comprendre tous ces enjeux, toute cette réalité, parce que le travail qu'on mène ici, n'est clairement pas déconnectée de notre vie. Et alors qu'on dit que justement l'Europe s'est éloignée et qu'elle ne s'occupe pas des bonnes choses, ben, la preuve par l'exemple. Mm-hmm. Non, c'est vital.
Est-ce que c'est facile dans un monde... Alors, je ne sais pas, je vais me tourner vers vous, Marie-Pierre Vedrenne, une fois encore, la proportion d'hommes et de femmes ici au Parlement européen. Mais est-ce que c'est facile de faire passer auprès de ses collègues masculins... Alors, on parlait du mot vagin, n'ayons pas peur des mots, même dans la matinale. Est-ce que c'est facile à prononcer devant des messieurs qui n'ont pas toujours non plus la même culture, finalement?
Ah, je pense que oui, effectivement, il y a encore des mots qui sont tabous. Mais je pense que, justement, Clarisse, quand on s'est rencontrés, m'expliquait aussi qu'elle avait prononcé ce mot et elle avait réussi à le faire prononcer à un collègue député européen, Guy Verhofstadt. Ils avaient eu un débat ensemble. Oui. Donc c'est ça aussi, c'est démontrer que non, il n'y a pas de mots tabous. Au contraire, et que justement, il faut jamais se voiler la face, il faut dire les choses. Parce que quand on dit les choses, on pose les problèmes et on avance.
Sur la proportion d'hommes et de femmes, juste pour avoir une petite idée pour nos auditeurs.
Alors, depuis 2019,
nos auditrices.
On a un peu plus de 40% de femmes qui sont présentes au Parlement européen. En fait, ça dépend aussi, parce que les élections européennes ont de noms européennes, vraiment que le nom, parce qu'en fait, elles sont organisées nationalement. Donc, c'est vrai qu'en France, nous, on a la loi sur la parité. Mmh. Et ce sont des listes nationales européennes, mais chaque État membre gère de manière différente. Donc vous avez des circonscriptions ou pas, vous avez des listes nationales, donc chacun est libre. Mais en tout cas, nous en France, c'est vrai que, en tout cas dans ma délégation, nous on avait une femme qui conduisait notre liste, c'était Nathalie Loiseau.
Qui a été ministre d'ailleurs. Exactement. En France, il faut le préciser. On va revenir aussi à un sujet, Marie-Pierre Vedrenne, qui vous intéresse, c'est le commerce. Quelque chose m'a frappé tout à l'heure, il y avait une réunion avec les jeunes qui ont posé d'ailleurs beaucoup de questions, alors on n'aurait pas le temps de toutes les citer, mais il y a une de vos réponses qui concernait la Chine finalement. Et vous avez en substance, vous allez me corriger si je dis une bêtise, déclaré que finalement aujourd'hui, les enjeux commerciaux étaient parfois des enjeux géopolitiques, voire politiques, voire au-delà.
Tout à fait. On le voit bien, de plus en plus, le commerce international est utilisé comme une arme pour faire pression sur des États membres pour changer leurs décisions politiques. C'est ce qu'on appelle notamment la coercition économique, parce qu'on n'est plus seulement sur des enjeux de concurrence déloyale. Certains États tiers, notamment la Chine, utilisent la coercition. Et je prenais l'exemple notamment de la Lituanie, un État membre de l'Union européenne qui a voulu renforcer ses relations politiques, économiques avec Taïwan. Et la Chine l'a sanctionné économiquement, a voulu lui rompre son accès au marché. Et c'est pas que pour des questions économiques, c'est pour vraiment avoir limité le renforcement des relations entre Taïwan et l'Union européenne et spécifiquement aussi la Lituanie. Donc on le voit bien, l'Union européenne, elle n'est pas toujours préparée à cela parce que ce n'est intrinsèquement agir comme ça, ce n'est pas elle. Donc elle estime que les autres ne peuvent pas agir comme ça. Sauf que je pense qu'on est sorti de la naïveté, on a compris que tout le monde n'agissait pas comme nous. Et maintenant, il faut bâtir, comme on l'évoquait tout à l'heure, tout cet arsenal juridique qui nous permette de protéger réellement tous nos intérêts, mais au-delà même de nos intérêts, notre modèle, qui est très différent, effectivement, de la Chine, qu'on qualifie de rival systémique, mais aussi un modèle qui est différent des États-Unis, il faut aussi le dire.
Voilà, l'Europe deviendrait grande, alors j'entends grande, adulte. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle était encore un peu adolescente, l'Europe.
C'est vrai, c'est souvent j'essaye de prendre des exemples un peu tangibles et c'est vrai que je trouve que parfois, on est encore à mi-chemin. Mais en même temps, on se construit chaque jour, même quand on est adulte. Donc l'Union européenne, c'est pareil, c'est un processus qui évolue chaque jour. Et c'est dans ce sens-là aussi que les citoyens ont un rôle déterminant à jouer pour pousser à la fois le Parlement européen, mais surtout nos chefs d'État et de gouvernement, à devenir pleinement adultes pour mieux défendre nos valeurs, nos ambitions et nos intérêts.
Je vais me tourner vers Karine Berthelot. Vous disiez tout à l'heure, j'ai deux adolescents, 19 et 21 ans. Vous parlez d'Europe avec eux. Quels sont leurs retours? Est-ce qu'ils sont plutôt pro-européens ou eurosceptiques ou...
Pro-européens, puisque c'est l'éducation aussi qu'on leur a donnée, effectivement. Donc je pense que ça joue indirectement par rapport à leur cursus également. Mais c'est vrai qu'à la maison, les sujets sont assez ouverts. Et je pense qu'une fois de plus, grâce à Marie-Pierre, elle nous a ouvert les portes. Et je pense qu'ils vont se sentir d'autant plus impliqués. Et ils auront envie d'aller un petit peu plus loin, certainement.
Mathieu, vous partagez ce point de vue, j'imagine?
Exactement, je partage tout à fait le point de vue de Karine. C'est vrai que ça passe vraiment par l'éducation, je pense, cette
réflexion finalement
c'est autour de l'Union européenne. Voilà, c'est ça passe par cette éducation et aussi par la communication entre les jeunes, parce que je pense que maintenant c'est important d'en parler aussi entre nous, entre tous les jeunes, pour acquérir cette connaissance européenne et montrer que en fait on a notre part aussi dans cette élection européenne, puisque c'est vrai que quand on voit les chiffres d'il y a 5 ans avec cette abstention forte, on se dit comment on peut faire changer ça? Et en fait, c'est en se mobilisant et en votant pour l'élection de l'année prochaine. Pour, voilà.
Vous avez envie de vous impliquer vous-même politiquement un jour, là, vous faites donc, vous êtes en deuxième année de droit à Rennes.
Oui, c'est ça.
Vous avez envie de vous impliquer plus, incarner cette nouvelle génération
C'est vrai que c'est vrai qu'on se construit tous les jours, du coup. Par conséquent, c'est vrai que mon avis professionnel change tous les jours, mais pour l'instant, je pense que même si je m'intéresse beaucoup à la politique, je n'en ferai pas ma carrière personnellement. Voilà. Mais c'est très intéressant de s'instruire politiquement, etc.
Voilà, peut-être peser aussi sur... Il y a beaucoup de juridique, alors je me tourne encore vers Marie-Pierre Vedrenne. Il y a beaucoup de juridique, on a l'impression, quand on voit ça un petit peu de l'extérieur, y compris pour les journalistes, que l'Europe, c'est des fois un peu compliqué. En son temps, on avait parlé de l'OTAN comme un machin. Enfin non, c'était de l'ONU d'ailleurs, c'était le général de Gaulle, comme un machin. Est-ce que l'Europe, c'est un machin? Voilà, je me fais un peu provocateur.
Non, moi, l'Europe, c'est avant tout un projet politique. C'est un projet de bâtir ensemble, certes, qui n'est pas parfait, parce que de toute façon, rien n'est parfait. Mais justement, on vient de le dire, c'est un engagement constant pour bâtir ces fameuses politiques publiques dont je parlais. Donc, le machin, en fait, c'est nous qui le faisons. Et c'est là où il y a une responsabilité à la fois individuelle et collective, et des élus. Donc c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de justement créer tous ces liens, toute cette émulsion, et ramener toute cette énergie bretonne dans cette enceinte pour bien connecter les choses. Parce que je pense que des fois, ce qui peut manquer, c'est la connexion justement entre le niveau local, le niveau national, le niveau européen, où on fait évoluer les choses, parce que des nouveaux défis, des nouveaux enjeux se présentent, et c'est important de pouvoir y répondre, parce que derrière, comme je dis, l'enjeu, c'est de bâtir une société du vivre ensemble, où chacun bénéficie d'opportunités. Moi, ça c'est un élément aussi qui me tient à cœur, parce qu'on n'a pas nécessairement tous les mêmes opportunités. Moi, j'aurais jamais cru qu'un jour je deviendrais députée européenne. C'était quand j'ai commencé mes études de droit, même, et après que je me suis spécialisée dans le droit européen. Jamais je me serais dit, je vais un jour. Non, ça me semblait tellement inaccessible. C'était des ministres qui devenaient députés européens. Et démontrer aussi que tout est possible. Et je crois que ça, c'est véritablement important comme message, que quand on s'engage, quand on y croit, c'est pas toujours. Il y a des moments où on y croit moins que d'autres. Mais justement, quand on rencontre des gens qui vous poussent, qui vous challengent, on lâche rien, on y arrive, on atteint nos objectifs et on fait en sorte qu'on ne soit pas des machins, du coup.
Clarisse Lecourt, l'Europe, c'est important pour une entreprise comme la vôtre. Comment aborder ce marché européen quand on lance un tel projet comme le vôtre? Comment s'inscrire dans la durée aussi, parce qu'il faut pouvoir conquérir des marchés? Et comment justement l'appui aussi d'une députée européenne, en l'occurrence Marie-Pierre Vedrenne, est importante pour vous?
Déjà, c'est l'engagement du dirigeant. Alors, c'est vrai que je me sens bretonne et européenne, et ça, c'est fondamental dans mes fondations. Et quand on veut aller sur le marché européen et international, parce que c'est sortie de France, c'est international, hein. Mais il faut des fondations très solides au niveau de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les certifications. Ces certifications, elles sont mises en place par l'Europe.
Voilà. Donc
c'est des guidelines. Et des guidelines que je respecte et sur lesquels je m'engage fortement. Et même je m'engage pour que ça aille un petit peu plus loin pour la sécurité des femmes en général. Et donc on se dit, cette dame, elle est magnifique. Parce qu'elle régule, elle régule et elle oblige les fournisseurs, les fabricants à respecter ces réglementations en vigueur. Et c'est comme l'architecture. Enfin, il y a des règles, on ne fait pas n'importe quoi. Et en santé, on ne fait pas n'importe quoi aussi. Et donc, tout ce travail de ces agents au niveau de l'Europe pour, on va dire, c'est le bien-être, hein, c'est la santé publique. C'est nous, hein, voilà, le bien manger, le bien soigner et tout. C'est quand même... C'est quand même génial. Et comment on va sur ce marché? Ben, on va dire que c'est un peu génétique, l'affaire, quoi. C'est ce qu'on a dans les tripes et comment on avance et comment on dépose tout ça en Europe. mais c'est quand même simple de faire du business en Europe aujourd'hui, quoi. À partir du moment où on veut quitter l'Hexagone, c'est quand même vachement accessible. Mmh. Et tout ça, c'est grâce à quoi? À la belle dame, à l'Europe et aux députés. Donc, tout ça aussi. En fait, on est souvent dans la critique, quand même. Mais il faut reconnaître qu'il y a tellement de choses qui se font quand même bien. Et s'arrêter un peu pour se dire, voilà, grâce à l'Europe, on peut faire du business en Europe, simplement. Voilà.
Je vais dire un gros mot, Marie-Pierre Védrenne, vous allez me le permettre. On parle aujourd'hui de certains partis politiques, on parle de protectionnisme, on parle de Frexit, parfois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète quand on voit une forme de montée des extrêmes aujourd'hui, un petit peu partout en Europe?
Bien sûr. C'est quelque chose qui est inquiétant. On le voit en France, en Italie. Il y a eu les élections en Italie, il y a eu les élections en Suède, il y a la situation en Hongrie. Mmh. Et ça doit nous rappeler que près de 60% de la population mondiale vit actuellement dans des régimes autoritaires ou des démocraties illibérales. 60% de la population mondiale. On le disait tout à l'heure quand on parlait de l'Ukraine, la paix, la démocratie, ça nous paraît des évidences, mais on le voit bien, les choses peuvent basculer très vite. Donc,
Il faut rester vigilant.
Et il faut dénoncer justement, et ça c'est aussi un de mes combats, et notamment quand j'interviens dans le cadre scolaire, de dire que le Rassemblement national propose... pas des solutions, parce qu'en fait, ils ne proposent pas des solutions. Ils font de la démagogie. Ils surfent sur les craintes et sur les peurs des gens. Ils ne cherchent pas à répondre aux problématiques, aux aspirations, notamment des Bretonnes et des Bretons. Ils cherchent la division pour avoir le pouvoir. Et je peux vous dire que quand j'échange avec des collègues hongroises, notamment, sur leur expérience avec Viktor Orbán, et qu'on voit après l'attaque à ce qu'on appelle l'état de droit. Alors l'état de droit, ça peut nous sembler très loin, mais c'est l'indépendance de la justice, c'est la liberté de la presse, c'est la défense des minorités. Tous ces fondamentaux, ils s'écroulent dans certains pays. Et Marine Le Pen, ses grands amis, c'est Viktor Orbán, c'est Vladimir Poutine. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Donc oui, je suis inquiète. Et c'est pour ça qu'il me semble extrêmement important d'ouvrir ces portes au Parlement européen pour expliquer quelle est notre réalité, puis démontrer aussi que le représentant et le nouveau président de ce parti, Jordan Bardella, on ne le voit pas beaucoup ici. On le voit beaucoup sur les plateaux télé, à justement porter ce discours simpliste et démagogue, mais il n'est pas là pour faire le travail.
Vous travaillez parfois dans des commissions avec des représentants du Rassemblement national ou d'autres, pour d'autres pays européens, l'équivalent?
En fait, le Rassemblement national et d'autres partis dans les pays européens siègent dans le groupe Identité et Démocratie. D'ailleurs, démocratie, ça me fait doucement rire dans le titre de leur parti. Donc, ils siègent dans ce groupe. Ils ont été élus. Donc, très bien, ils sont là, avec l'objectif de vouloir détruire l'Europe de l'intérieur, même si maintenant, le grand argumentaire, c'est de dire qu'ils sont pro-européens. Bon, soit, nous n'avons pas la même vision de l'Europe. Et d'ailleurs, vous évoquiez le fait qu'ils veulent faire du Frexit, mais regardez bien, elle ne parle plus de Frexit, elle ne parle même plus de la sortie de l'euro. Voilà. Sauf que derrière, quand elle détaille les choses et quand vous creusez un peu leur programme, ça vient à ça à terme. Donc ça aussi, c'est justement notre rôle de pointer du doigt toutes leurs incohérences. Quand certaines interviews vous disent « oui, il faut mettre une taxe aux frontières, etc. Pour les mécanismes pour le carbone », et pourquoi alors, quand on vote le mécanisme carbone et quand on a travaillé dessus, le Rassemblement national ne le vote pas? Ouais. Moi, j'aimerais qu'ils m'expliquent. Donc, c'est ça. Il faut pointer du doigt toutes leurs incohérences et démontrer qu'ils ne répondent en rien. Donc, ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour la démocratie, pour notre République et pour le fait qu'ils ne répondent, j'insiste sur ce point, ils ne répondent rien, par exemple, à tous les enjeux dont on vient d'évoquer. Les sujets commerciaux. On nous dit, il faut mieux défendre nos intérêts. D'accord, c'est exactement ce que je dis, mais moi, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il va réellement le faire. Comment il construit les choses. Parce qu'en fait, en étant les vassaux de Vladimir Poutine ou d'autres, c'est pas comme ça qu'on va défendre nos intérêts. Non, non, c'est justement en renforçant l'unité européenne, en travaillant avec nos partenaires, en étant crédibles, qu'on arrivera à mieux défendre nos intérêts. En travaillant sur une politique industrielle forte, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau national. On voit, on a regagné des emplois, on a réinvesti, notamment avec le plan de relance européen. Mais qui a construit le plan de relance européen après le choc du Covid ? Ben, c'est l'action d'Emmanuel Macron avec la chancelière Merkel et c'est le Parlement européen qui a poussé dans ce sens-là. Donc ça, il faut le rappeler.
Est-ce qu'il y aura un avant, un après guerre en Ukraine pour l'Europe aujourd'hui ?
Forcément, forcément. Je pense que c'est souvent ce que je dis quand j'ai été élue en 2019. Un des points, c'est qu'on pensait qu'un des éléments fort qu'on allait devoir, sur lequel on allait travailler, c'était le Brexit, et puis notre cap de la transition écologique et digitale. Bon, bien sûr, il y a eu la pandémie, mais là, c'est le retour de la guerre sur le continent européen. Mmh. Et je crois qu'un des moments les plus marquants jusqu'à ce jour de mon mandat, ça a été l'intervention de M. Zelensky dans notre hémicycle. Quelques semaines après l'attaque, donc il y a maintenant près d'un an, oui, c'est un moment marquant. Il vous appelle à agir. Il vous rappelle la réalité de ce qu'est la guerre. Moi, j'ai pas connu la guerre. J'ai bien évidemment mes grands-parents qui m'ont raconté, mais je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai pas vécu dans ma chair. Lui, il nous rappelle ce qu'est justement la guerre. Quelle est la réalité ? Quel est l'impact ? Et donc, c'est évident que quand là, vous avez des gens qui se battent pour, et qui chérissent à tel point la liberté, la démocratie, pour eux, mais plus largement, qui nous rappellent à quel point parfois aussi on a été naïfs, à quel point on a pu croire qu'on arriverait, notamment en travaillant sur la question du gaz avec la Russie, à les ramener justement vers un certain modèle. Non, et c'est, je lis ça à la question du commerce international. On le voit bien, c'est pas parce qu'on échange avec certains partenaires qu'ils vont fonctionner de la même façon que nous sur les valeurs, sur la démocratie. Cette approche qu'a pu avoir l'Union européenne dans le passé n'est plus la bonne. Donc le logiciel a changé, notamment avec la pandémie, notamment avec la guerre en Ukraine. Et notre travail qui continue maintenant, qui avait déjà débuté, porté notamment par la France pour cette Europe souveraine qui défend avec plus de vigueur, avec plus d'ambition, ben, ses valeurs et ses intérêts, ça doit continuer de se matérialiser, de se concrétiser à travers cette législation qui nous permet, comme on vient de le voir sur un exemple particulier avec l'entreprise Clarifarm, eh ben, de répondre aux enjeux sur nos territoires.
Marie-Pierre Vedrenne, qui a un petit peu explosé le temps, je dois l'avouer, ce matin, dans cette matinale spéciale. J'ai demandé deux petites minutes à Baptiste, qui réalise cette matinale depuis Bruxelles. Un petit tour de table très rapide, une idée de l'Europe demain, Mathieu ?
Une Europe demain, ce sera une Europe nouvelle, une Europe innovante pour le futur. Parce que je pense que même si on a toujours des doutes, et même si on a un avis sur un avenir pessimiste, et ben faut toujours avancer et on trouvera toujours des solutions.
Voilà, ça c'est optimiste. Clarisse Lecourt, un dernier mot. L'Europe, pour vous demain, vous formez quel vœu ?
Alors, malheureusement et bien heureusement, le conflit en Ukraine renforce l'Europe. Ça, c'est une évidence. Et quand on suit ce renforcement, on se dit il faut une Marie-Pierre Vedrenne qui représente les Bretons encore au Parlement européen. Et moi, ça me rassure qu'elle soit là et qu'elle agisse dans l'intérêt des Bretons et des Français en général, pour que ce soit le commerce international ou la réglementation en vigueur pour là, ce qui concerne le laboratoire Clarifarm. Moi, ça me rassure de l'avoir. Voilà.
Là aussi, plutôt un constat optimiste.
Oui, très optimiste.
Karine Berthelot, pour le mot de la fin, l'Europe de demain, pour vos ados.
On le voit, les enjeux sont conséquents. Donc, vive l'Europe et votons aux prochaines élections.
Voilà, ça aussi, c'est important. On pourrait faire un deuxième tour de table. Mais là, je retire la parole à Marie-Pierre Vedrenne, parce que là on n'aura plus le temps. Voilà. Merci infiniment, alors, Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne, d'avoir été avec nous ce matin à Bruxelles, dans ce studio, un des nombreux studios du Parlement européen. On a failli s'y perdre. Hein. C'est plus grand que Bretagne 5, il faut bien le reconnaître. Je remercie Baptiste qui a assuré la réalisation de cette matinale. Je suis un petit clin clin d'œil quand même à Frédéric Guillon, mon réalisateur habituel, qui est là et qui pour une fois ne travaille pas, il faut bien le dire. Merci infiniment et très belle journée à vous toutes, à vous tous, et puis bien la matinale continue.
Merci,
merci,
au revoir.
Au revoir.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.